Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous dominical, Tendance Confidence, premier dimanche de l'année 2022, ce qui me donne l'occasion de vous souhaiter une belle année et avec ce cadeau précieux qui est la santé. Lorsqu'on parle de cadeaux et que c'est la fête de l'Épiphanie, nous pensons évidemment aussi aux rois mages qui sont venus apporter dans la tradition chrétienne leur présent à l'enfant de la crèche qui venait de naître à Bethléem, Gaspard, Melchior et Balthazar. Et bien aujourd'hui, pour cette émission Tendance Confidence, ce ne sont pas ces trois noms que je vais interviewer, mais Brieux, Pauline, qui sont partis avec les missions étrangères de Paris en mission, comme volontaires. Quelques mots d'histoire avec vous, Mailleul, puisque vous êtes chargé de la communication pour les volontaires qui partent en lien avec les MEP, pour parler de son sigle.
Alors les Missions étrangères de Paris, c'est une société qui a plus de 360 ans et qui à l'origine envoie des prêtres missionnaires à l'étranger à vie. Depuis 20 ans, nous envoyons des volontaires, donc des jeunes laïcs, pour aller aider les pères missionnaires sur leur mission.
Est-ce que vous-même, vous avez été volontaire dans le cadre de cette institution ?
Non, moi-même, je n'ai pas été volontaire au sein des Missions étrangères de Paris. Par contre, c'est une ancienne volontaire qui m'a annoncé que le volontariat MEP recherchait une chargée de communication. Et c'est grâce à une ancienne volontaire, du coup, que j'ai intégré les MEP.
Alors, nombreux sont les jeunes qui acceptent de partir dans le cadre d'une mission, dans le cadre aussi de l'humanitaire, ou bien comme volontaire avec les Missions étrangères de Paris. Vous-même, Mailleul, quels sont ces jeunes que l'on va pouvoir écouter pendant cette émission et qui sont partis avec les MEP ou qui vont partir pour l'année 2022?
On a une grande diversité de volontaires sur le départ. On envoie des volontaires entre 20 et 35 ans. Donc pour certains, ils sont encore en études, en licence ou en master. Et pour d'autres, ce sont des jeunes professionnels. Et ils viennent souvent frapper aux portes du volontariat des Missions étrangères de Paris parce qu'ils sont en quête de sens et qu'ils ont envie de remettre un peu l'humain au cœur de leur vie. Et je pense que c'est une des choses qu'on peut retrouver en volontariat, parce qu'on part dans un pays où on ne connaît pas la culture, où on ne connaît pas les gens, et on accepte du coup de se laisser bousculer. Mais ils en sortent toujours avec une leçon qui est importante pour eux et peut-être personnelle, que ce soit le travail, que ce soit la vocation, que ce soit l'orientation, qui donne envie éventuellement à d'autres personnes de partir en volontariat.
Merci Mailleul de nous avoir resitué dans son contexte cette activité. Alors Pauline, vous êtes partie en Asie. Est-ce vous qui avez choisi la destination du pays ?
Alors, on choisit de partir en volontariat, mais on ne choisit pas sa destination. Elle nous est attribuée après un long échange, un entretien, différents échanges avec le volontariat. Et ensuite, on nous appelle sur une mission, et cette mission se trouve nécessairement dans un pays donné.
Et pour quelle destination avez-vous pris l'avion ?
Je suis partie 2 ans en Thaïlande. Au départ, j'étais partie pour 10 mois. J'ai été envoyée à Bangkok, dans les bidonvilles. Pendant ma mission, on m'a proposé une autre mission dans le nord-ouest de la Thaïlande. Et du coup, j'ai rempilé pour un an à l'issue de ces 10 premiers mois.
Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque vous partez de France et que vous arrivez en Thaïlande ?
Au début, on est vraiment dans l'excitation, la découverte, c'est l'émerveillement. C'est plutôt au bout de 3 mois pour moi que ça a été difficile, où je me suis interrogée sur le sens de ma présence et de se dire, en fait, je ne suis là que temporairement. Enfin, moi, il y a un texte qui m'a beaucoup guidée, c'est « Le renard et le petit prince ». Et dans ce texte, il y a un passage qui dit « L'essentiel est invisible pour les yeux ». Et donc tout ce qu'on a donné pendant cette mission, même si on ne se voit plus après, même si c'est temporaire, ce qui a été donné reste et demeure pour chacun des enfants qu'on a rencontrés, des personnes qu'on a connues.
À côté de vous, Pauline, se trouve Brieux, qui vient de Brest et qui a effectué des études de journaliste. À quoi attribuez-vous cette passion que peuvent aussi avoir les jeunes pour l'humanitaire ?
En fait, ce qui m'a motivé à partir, c'est un peu la rencontre entre un peu un cri de révolte et une volonté de vivre une vie un peu plus incarnée. Un petit cri de révolte d'abord, parce que comme beaucoup de gens de mon âge, j'avais fait des études classiques où finalement on apprend énormément de choses, mais on n'est pas encore dans une position d'agir, de transformer, de travailler, etc. Toute l'année d'études avant que je parte, j'avais passé la moitié de mon temps en fait à faire des petits boulots à l'usine, etc. Notamment parce que les études commençaient franchement à me barber. Mais en même temps, je sentais que j'avais aussi besoin de vivre une vie au plus proche finalement des populations qui ont besoin d'aide. J'avais envie de me mettre au service en fait, tout simplement. Et alors pourquoi partir à l'étranger ? Je pense que comme beaucoup de gens de mon âge, on a envie de bousculer sa vie. Et j'avais un peu besoin de faire cette petite révolution-là en partant. Et c'est comme ça que j'ai toqué en fait aux portes des MEP. Des amis m'en avaient parlé. Certains étaient partis. Ils m'avaient dit ce qu'ils avaient fait sur place. En aidant justement des populations, en aidant dans des hôpitaux, en étant prof. Et voilà, c'est ce qui m'a fait vraiment franchir cette porte des MEP. Et je suis parti avec eux comme cela, en 2017.
Et comment transmettre des valeurs et des compétences tout en respectant les cultures qui existent sur place ?
Alors moi, ma mission, c'était d'être prof d'anglais là-bas, mais je vais dire exactement la même chose que Pauline. Finalement, on ne nous envoie pas pour départ nos qualités professionnelles. Je n'ai rien à prof d'anglais. Mais effectivement, c'est davantage cette envie déjà de me mettre au service des autres, en tout cas de ceux dont j'avais la charge, qui m'a guidé tout au long de ma mission. Vous savez, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément formé pour aider les gens qu'on ne peut pas, d'une façon ou d'une autre, les aider d'une autre manière. Ce que disait Pauline est très juste, en fait. Ce qui est vraiment essentiel échappe aux yeux, généralement, sur la mission. Je pense que beaucoup de volontaires le vivent comme ça. Cette soif d'aller vers les autres, au final, elle va davantage nous nourrir, nous, que nous nourrissons les autres. C'est la principale leçon que j'ai retenue de cette année au Vietnam.
Pauline, vous êtes partie, quant à vous, en Thaïlande. Vous avez en France une activité professionnelle auprès du handicap. Pourquoi avoir choisi de partir à l'étranger pendant plus d'un an, alors qu'en France, il y a aussi des personnes qui ont besoin d'être aidées, parfois dans le même immeuble, là où nous pouvons résider?
Je vais vous dire, c'est la première question qu'on m'a posée quand je suis arrivée dans une des écoles du bidonville où j'enseignais l'anglais. On m'a dit, mais c'est super, mais en fait, il n'y a pas de pauvres en France. Donc j'ai dit, si, il y en a. Mais c'est pas facile dans son quotidien de traverser la rue et de prendre ce temps-là. Alors que si on se donne cette disponibilité-là pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, d'être pleinement à l'autre, c'est vachement plus facile en fait. On n'est pas court-circuité par les propositions des amis, par notre boulot, par... on est pleinement disponible pour l'autre et à chaque instant on peut s'arrêter, passer une heure comme ça, gratuitement avec quelqu'un. On n'est pas là à courir après le temps, à se dire, oh là là, au secours, il me prend une demi-heure de trop, qu'est-ce que je vais faire après, enfin.
Brieux, en tant que jeune professionnel et puis aussi dans votre vie de couple, en quoi ce que vous avez découvert au Vietnam en transmettant des savoirs et des compétences et vous-même en recevant beaucoup des personnes que vous avez rencontrées, qu'est-ce que cela a modifié dans votre activité que vous avez repris en France ?
J'étais parti en fait alors que je fréquentais déjà celle qui est devenue mon épouse. Ça a été 10 mois de séparation, mais que nous avons vraiment mis à profit en nous écrivant souvent des lettres, des messages et en cultivant à distance en fait notre amour tout simplement. Et alors que peut-être les 10 000 kilomètres qui nous séparaient auraient pu faire se ternir ou se dissiper un peu tout cet amour que nous construisions, au contraire, il m'a renforcé. Et c'est lorsqu'elle est venue en fait me retrouver au Vietnam à la toute fin de ma mission que je lui ai demandé si elle voulait passer le reste de ma vie avec moi. J'avais en plus de ma mission de prof d'anglais la charge de m'occuper de 5 petites filles dans un orphelinat, dont une qui est probablement battue dans sa jeunesse jusqu'à ses 6 ans, âge auquel elle était rentrée dans l'orphelinat. Elle tapait en fait toutes les petites filles autour d'elle et même les encadrantes. Et je me suis dit que ma mission était vraiment particulièrement auprès d'elle. Et pendant un an, patiemment, s'est construit une confiance entre elle et moi, puisque finalement, les engagements dans la vie, on peut aussi parler un peu de vocation. Je suis revenu aussi de cette mission en me disant que j'avais une vocation aussi d'avoir une famille, en tout cas d'avoir des enfants. On en revient à l'attitude accueillante qu'il faut avoir vis-à-vis des gens qu'on nous donne de rencontrer. Finalement, il faut tout simplement, comme dans la vie, accueillir les choses comme elles viennent, parce que de toute façon, ce sont les choses qui viendront nous cueillir sinon, et en tirer à chaque fois le meilleur.
Et aujourd'hui, nous parlons mission avec Mayeul, Pauline, puis vous-même, Brieux. Continuons avec vous cette seconde partie d'émission. Vous êtes parti dans le cadre du volontariat organisé par les missions étrangères de Paris. Des Normands aussi partent dans le cadre de cette organisation. Pourquoi avoir choisi de partir au Vietnam, faire 10 000 kilomètres pour transmettre vos savoirs et vos compétences, en recevoir aussi vous-même, alors que vous avez aussi des personnes à aider aussi en France, près de chez vous?
Déjà avant de partir, mais surtout en rentrant, beaucoup de gens nous demandaient pourquoi vous êtes mis en tête de faire 10 000 km pour aller aider, alors qu'effectivement une personne en bas de la rue n'a pas de toit. Alors moi, avec ma sensibilité de chrétien, on va dire qu'il y a des pauvres et des personnes qu'on peut aider, il y en a partout et que je ne connais pas forcément de frontières. Mais ça ne m'a pas empêché, en fait, quand je suis rentré. J'ai vraiment eu envie de m'engager d'abord dans des maraudes, également dans une...
Maraudes, s'il vous plaît.
Pardon, oui, c'est vrai. Les maraudes, ce sont ces associations, en fait, de quartier, alors portées par des associations de quartier, par des paroisses, qui viennent en aide aux personnes de la rue. Et certaines maraudes leur apportent nourriture, vêtements. Nous, on apportait nourriture et surtout discussion, parce qu'on se rendait compte que la plupart des personnes dans la rue ne manquent pas forcément de nourriture, puisqu'elles sont aussi bien intégrées dans un réseau associatif, mais il manque surtout d'interaction sociale avec des personnes qui les considèrent tout simplement normalement dans leur dignité humaine. Et là, on revient sur quelque chose que la mission nous apporte, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à aller regarder les autres, effectivement, juste comme des individus, indépendamment des frontières, de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, mais comme des personnes avec qui on peut communiquer, partager, échanger et de qui on peut s'enrichir.
Alors les missions étrangères de Paris sont situées rue du Bac. Différents prêtres partent en mission plusieurs années en Asie. Les volontaires dont nous parlons avec vous, Mayeul, partent aussi un an, voire deux ans. Merci de rappeler aux auditeurs comment se passe justement ce recrutement par rapport à ces jeunes professionnels ou à ces étudiants qui choisissent de donner de leur temps pour aller en Asie.
C'est énormément d'écoute de la personnalité, de ce que les volontaires souhaitent ou ne souhaitent pas, parce que c'est très important pour nous de savoir s'ils ne veulent pas être tout seuls, ils ne seront pas tout seuls, s'ils veulent être en ville, s'ils veulent être à la campagne. Il y en a qui sont à la recherche de solitude, peut-être. Ce sont des aspects très importants du recrutement. Et ce sont du coup des bénévoles qui viennent les écouter, leur faire passer les entretiens. Et en plus d'un entretien avec un psychologue, pour s'assurer aussi que c'est le bon moment pour eux de partir, sachant que sur le terrain, ils sont ici également accompagnés par des chargés de mission qui sont à leur écoute, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Mais c'est très important pour nous qu'ils soient suivis et qu'ils aient toujours une écoute en France, si jamais ils ont besoin. Et on est toujours très heureux de partager avec eux les petites surprises de la journée ou les moments de bonheur de la semaine.
Pauline, en France, vous avez une activité professionnelle auprès de personnes en situation de handicap. Vous avez choisi de passer plusieurs mois donc en Thaïlande, dans des bidonvilles. Comment vous avez réagi lorsque, partant de Paris, vous êtes arrivée dans ces quartiers ?
Alors, j'avais l'image des bidonvilles de Calcutta. En fait, il n'y a pas un grand bidonville. Il y a 87 bidonvilles, enfin même beaucoup plus que ça, hein, mais en tout cas, j'en connaissais 87. Et que, en fait, quand on passe d'un bidonville à l'autre, nous, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, au quotidien, quand on connaît un peu mieux, on s'en rend compte et on passe d'une maison qui est petite et mais quand même, on va dire, digne, à une maison de tôle. Enfin voilà, il y a différents degrés dans la pauvreté et dans la misère. Et puis, moi, j'ai découvert que dans le bidonville de Bangkok, enfin dans les bidonvilles de Bangkok, la misère, elle est aussi dans la solitude et dans la détresse des gens. J'ai aussi découvert, parce qu'une partie de ma mission, j'en ai pas parlé, mais était auprès de la paroisse francophone de Bangkok, donc auprès d'une communauté plutôt expatriée. Et j'ai découvert que, en fait, il y avait certains enfants que je côtoyais dans le bidonville qui étaient peut-être plus heureux que certains enfants que je côtoyais dans le milieu d'expatriés. Et que, en fait, l'argent ne fait pas forcément le bonheur. Et que, je vous disais, la misère, elle n'est pas que matérielle. Il peut y avoir aussi une misère sociale, une misère. Enfin, voilà, il y a plein de degrés dans la misère.
Brieux, je rappelle que vous avez 26 ans, que vous êtes parti plusieurs mois dans le cadre du volontariat avec les missions étrangères de Paris. Vous avez aussi précédemment parlé de votre vie de couple. Pensez-vous que l'engagement peut apparaître facile, mais qu'en est-il de la durée ?
Effectivement, c'est une question que je me répète régulièrement, que je me répète en mission, que je me répète encore aujourd'hui, à la veille de devenir papa, donc pour la première fois. En fait, un peu la conclusion, en fait, ce que j'ai fini par me dire, c'est que pour être épanoui, il faut tout simplement se sentir à sa place, c'est-à-dire trouver un sens à ce qu'on fait et à son existence. À l'étranger ou ici, marié ou justement choisir une autre voie qui est par exemple la voie de la prêtrise, tant qu'on trouve du sens et tant qu'on se sent à sa place, un engagement peut se construire. Mais je pense qu'il faut toujours garder énormément de recul sur les engagements qu'on prend. Surtout quand on a nos âges, quand on est jeune, je m'adresse certainement aussi à vos auditeurs qui peuvent avoir l'âge que j'ai, 26 ans, on a parfois tendance à vouloir se jeter tête baissée dans des choses en se voilant un peu la face, en disant « ça va me plaire et je vais m'épanouir dedans parce que j'en ai décidé ainsi ». Non, l'épanouissement, c'est quelque chose qu'il faut ressentir au plus profond de soi, de manière organique, de manière incarnée. Paradoxalement, il faut beaucoup le réfléchir, ça. Prendre l'engagement de me marier, ça a pris 10 mois de mission aussi pour y réfléchir. Prendre l'engagement de devenir papa, c'est pas venu du jour au lendemain, ça a été aussi un projet, tout simplement, que nous avons réfléchi avec mon épouse pendant plusieurs mois, un an, deux ans, etc.
Et à vous trois, Brieux, Pauline et Mayeul, que vous inspire le sous-titre de cette émission avec ces mots-clés cœur et vie ?
Il y a cette notion vraiment d'incarnation. Mais quand on pense à la vie, on pense aussi à la transcendance, on pense aussi au sens, on pense aussi à ce qu'on veut, nous, justement, apporter un peu sur cette terre, à ce qu'on veut laisser derrière nous.
Quant à vous, Pauline, que vous inspire ces deux mots, cœur et vie ?
Quand vous me dites cœur et vie, j'entends les éclats de rire des enfants, que ce soit dans le bidonville, que ce soit dans mon quotidien auprès des enfants polyhandicapés. C'est les éclats de vie de ces enfants quand ils sont aimés, quoi.
Emma Yeul, que vous inspire le sous-titre de cette émission ?
On vit avec le cœur, c'est-à-dire qu'on vit avec amour, avec bienveillance. Et l'un ne peut pas marcher sans l'autre. En travaillant de cette manière-là, en mettant son cœur dans son travail et donc dans sa vie, qu'on peut donner aussi envie justement à ces volontaires de mettre leur cœur dans leur mission et de prolonger leur vie après leur mission pour s'engager ailleurs.
Et le site internet, si des jeunes normands veulent partir aussi en Asie par le biais des missions étrangères ?
Volontariamet.com. Vous pouvez nous trouver aussi sur le site des missions étrangères de Paris. Il y aura un onglet pour visiter le site du volontariat.
Podcast by Tendance Ouest.